bien présente, elle retient quelques degrés, ce qui fait que l'atmosphère est fraîche, mais pas glaciale. Les valeurs stagnent autour de 5 degrés ce soir. Au petit matin, les gelées sont concentrées sur quelques régions, s'étirant du massif central au nord-est. Ailleurs, le thermomètre affichera 2 à 7 degrés. Les maximales oscilleront entre 7 à 12 degrés en général, 13 à 17 sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse.
Donc les nuages, c'est comme une couette. Si on enlève la couverture, il fait plus froid.
Exactement.
Bon, bah voilà, c'est ce qui se passe dans les prochaines heures. Merci beaucoup Stéphanie Fromentin. Vous êtes sur France Info, il est 18h. L'info avec vous, Sarah Ders. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
À la une, la rencontre à l'Elysée entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.
Les négociations de paix ne peuvent se faire sans l'Ukraine ni les Européens, dit Emmanuel Macron. Nous sommes en direct de l'Elysée en début de ce journal. L'actualité, c'est aussi la réunion autour de la défense en plein examen des budgets pour 2026. Le Premier ministre réunit les parlementaires, vous l'entendrez. L'actualité, c'est aussi un nouveau projet d'attentat déjoué en France et des mineurs une nouvelle fois mis en cause. Et puis enfin, le festival de la BD d'Angoulême n'aura pas lieu. C'est officiel, mais sans surprise. Le président Volodymyr Zelensky, soutenu par Emmanuel Macron et les principaux dirigeants européens. Volodymyr Zelensky était à l'Elysée aujourd'hui. Il s'est entretenu avec le président français et plusieurs dirigeants européens par visioconférence. Et visiblement, les Européens tentent de se faire une place à la table des négociations. Étienne Monin, en direct de l'Elysée.
Oui, la journée a été dense au palais de l'Elysée, les discussions nombreuses. Les deux dirigeants ont eu donc une série de contacts pour coordonner la position européenne et pour faire le point sur les négociations d'hier aux États-Unis entre Américains et Ukrainiens. Le plan s'améliore, dit en substance le président Zelensky.
Il s'agit d'un processus qui n'est pas terminé. Et je vous dirai franchement, la question territoriale est la plus difficile.
Et pour Emmanuel Macron, l'initiative américaine n'est d'ailleurs pas encore au stade de plan. Le président français considère que plusieurs sujets cruciaux échappent au rayon d'action américain. Les garanties de sécurité concernent avant tout les Européens, comme les avoirs financiers russes. Le président français pousse donc pour une place européenne et ukrainienne à la place des négociations.
Étienne, lorsqu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire.
Mais les discussions territoriales sont compliquées. Elles ont duré 6 heures hier aux États-Unis. Demain, l'envoyé du président Trump rencontrera Vladimir Poutine. Ce sera un test pour clarifier les positions russes, estime Emmanuel Macron.
Merci Étienne Monin en direct de l'Elysée avec Selim Guerribi pour les moyens techniques. Un contexte international tendu en lien avec cette guerre en Ukraine, c'est pourquoi Sébastien Lecornu s'est exprimé il y a quelques minutes aux côtés de Catherine Vautrin, ministre des Armées. Il met en garde sur les risques d'une absence de budget sur le volet de la défense. Le gouvernement, sous pression, tente de convaincre les différents groupes parlementaires sur les deux textes budgétaires. Il y a des progrès mais pas encore de compromis avec le gouvernement, affirme les socialistes reçus aujourd'hui par le Premier ministre. L'exécutif a besoin au minimum de l'abstention des socialistes pour faire passer ce budget de la sécurité sociale.
France Info, 18h03, l'info avec vous Sarah Ders. À la une aussi, l'État qui tente de sauver Brandt.
700 emplois menacés, le fabricant d'électroménagers est en redressement judiciaire, le temps presse, car après-demain, le tribunal de Nanterre va examiner les offres de reprise du groupe. Alors, le ministre de l'Industrie, au chevet des salariés ce matin, l'assure, l'État est prêt à mettre 5 millions d'euros dans un projet de coopérative pour relancer Brandt. Sébastien Martin visite d'une des usines près d'Orléans.
Moi, je suis venu pour dire que l'État serait présent dans le projet de scope qui va être déposé, c'est-à-dire qu'on est prêt à mettre 5 millions d'euros pour accompagner ce projet, c'est pas rien. On a 24 heures pour trouver une solution. On a 24 heures pour convaincre, notamment les banques, que le projet est solide, que le projet est viable, mais surtout qu'il y a une histoire industrielle ici à Orléans et à Vendôme autour de l'électroménager, de marques qui parlent à tous les Français et qui sont derrière moi, et que ces marques peuvent avoir un avenir si tout le monde y croit, si tout le monde se mobilise. Sur cette scope, aujourd'hui, il est évident qu'il y a deux hypothèses. Soit on pense qu'on va pouvoir garder tout le monde, mais il n'y a pas d'avenir. Soit on est prêt à accepter qu'il y ait un recentrage de la stratégie de l'entreprise, peut-être sur des produits un peu plus premium. Et il y aura un peu plus de 300 salariés qui peuvent être sauvés dans cette opération de scope.
L'État doit encore trouver les solutions bancaires indispensables pour que le projet de reprise de Brandt soit viable. Un nouveau piratage informatique, France Travail et l'Union nationale des missions locales viennent de l'annoncer. Les données personnelles sont susceptibles d'être divulguées. Cela concerne 1,6 million de jeunes suivis par ces missions locales pour trouver un emploi. La grève nationale de demain pour plus de salaires et de justice sociale à l'appel des syndicats CGT Solidaire FSU. Peu de conséquences dans les transports selon le gouvernement. Trafic normal des TGV. Quelques perturbations des TER à prévoir, par exemple en Occitanie et sur le RERC en Ile-de-France.
Un nouveau projet d'attentat déjoué en France et des mineurs, une nouvelle fois mis en cause.
Deux adolescents de 16 ans ont été mis en examen hier pour association de malfaiteurs terroristes, soupçonnés d'avoir projeté un attentat contre des cibles de confession juive. Margot Steve, au cœur de l'enquête, des messages haineux envoyés sur WhatsApp.
Oui, et notamment quelques mots qui ont précipité les investigations. Un message posté dans un groupe WhatsApp baptisé 100 comme le nombre et dans lequel l'un des deux adolescents affirme vouloir tuer des juifs dans 5 jours. Il envoie ensuite un selfie où il pose avec un couteau. De quoi alarmer les enquêteurs de la DGSI qui vont interpeller les deux adolescents mercredi dernier. L'auteur du message, arrêté en Alsace, est d'origine tchétchène. Il a quitté le pays il y a 4 ans avec sa mère pour fuir un père violent. Déscolarisé depuis l'an dernier, très isolé, il semble s'être radicalisé seul, indique une source proche du dossier. Le second est lui un adepte de jeux vidéo et de contenus ultra-violents issus d'une famille plutôt aisée et insérée en région parisienne. Pendant leurs 96 heures de garde à vue, tous les deux ont reconnu leur radicalisation tout en assurant qu'ils ne seraient jamais passés à l'acte.
Depuis le début de l'année, 20 mineurs ont été mis en cause dans des dossiers de terroristes en France. Gaël Perdriau perd son mandat de maire de Saint-Étienne et va en prison, reconnu coupable de chantage à la vidéo intime envers son ancien premier adjoint. La justice le condamne aujourd'hui à 4 ans de prison ferme avec exécution immédiate et 5 ans d'inéligibilité. Gaël Perdriau annonce faire appel. Cédric Jubilard déchute son autorité parentale sur ses deux enfants. La cour d'assises du Tarn lui a retiré aujourd'hui après sa condamnation à 30 ans de prison pour le meurtre de son épouse Delphine. Les deux enfants Jubilard placés sous la tutelle de leur tante maternelle. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, promet des postes supplémentaires l'année prochaine. Il y aura 100 places de conseillers pénitentiaires d'insertion et probation et 900 agents supplémentaires dans les prisons.
En visite à Beyrouth, le pape Léon XIV va-t-il réussir à séduire les jeunes catholiques ?
Eh bien, c'est l'objectif de sa rencontre ce soir avec des jeunes Libanais au nord de la ville, à Kerké, le bastion des Maronites. Le pape Léon XIV poursuit sa visite au Liban, deuxième étape de ce premier voyage. Et ces jeunes chrétiens pratiquants, qu'attendent-ils de la visite du pape ? Bruno Duvic, vous êtes allé à leur rencontre.
Quartier de Djemaïzé, vie nocturne très active, présence chrétienne encore importante. Mauricio est posé sur son scooter à la sortie d'un restaurant, pratiquant de temps en temps, très motivé par la venue du pape.
J'étais à l'aéroport pour l'accueillir. On voit des grandes images du pape et des drapeaux du Vatican partout. Nous sommes très heureux de cette visite.
Un peu plus bas dans la rue, Mira, sa boutique de produits de beauté est ouverte tard le soir. Elle ira à la grand-messe sur le front de mer demain.
Les Libanais veulent des moments de joie, de paix, on en a besoin. Nous avons vécu tellement de crises. C'est une épreuve psychologique. On n'en peut plus.
Mauricio aussi ira à la messe. Qu'attend-il du pape ?
Je ne pense pas qu'il change grand-chose ici, mais cela fait du bien de recevoir un leader religieux en dehors de la classe politique. Ça apporte de l'espoir.
Mais Joseph, à la table d'un bar, est dubitatif sur les effets de cette visite.
On verra après son départ. Personne n'en sait rien, frère. On a entendu trop de promesses en vain. On n'y croit plus.
Le pape entendra directement ses doutes aujourd'hui lors de son échange avec les jeunes.
Et le pape Léon XIV donnera demain une grande messe sur le front de mer.
Le festival de la BD d'Angoulême, c'est ça dont vous voulez parler, je crois, Sarah.
Le festival n'aura pas lieu l'année prochaine, annonce la société organisatrice. Sans surprise, après la cascade de défections, les appels au boycott de tous les partenaires du festival, auteurs de BD, maisons d'édition, tous accusent la société organisatrice de mauvaise gestion. La réaction de Benoît Peters, l'écrivain et scénariste de BD.
Il est évidemment inenvisageable que ce soit le même opérateur, la même société mise en cause, qui soit en charge du festival 2025, puisque ça conduirait inévitablement au même boycott et donc à la mort du festival. Mais je crois que la mairie et les pouvoirs locaux sont assez conscients de la nécessité de changer d'opérateur très très rapidement et je pense qu'un nouvel appel d'offres sera lancé dans des conditions évidemment beaucoup plus respectueuses et certainement la société 9e Art Plus devra trouver un arrangement. Je crois que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est au fond préparer une transaction. Ce n'est pas imaginable parce que la mobilisation ne faiblirait pas. Ça fait quand même 10 ans que les auteurs et certains éditeurs ont lancé des avertissements que la ville sait qu'il y a une difficulté et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer à dialoguer avec cet opérateur.
Benoît Peters, l'écrivain et scénariste de BD qui réagit à l'annulation l'année prochaine du Festival de la BD d'Angoulême.
L'info signée Sarah Ders, il est 18h10.
Nouvelle édition de J'apprends l'info, le programme d'éducation à l'information de Bayard Jeunesse et France Info pour les 7-15 ans. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Comment bien s'en servir? Quels sont les pièges à éviter? Enseignants, participez à distance avec votre classe aux 2 webinaires gratuits du mardi 9 décembre avec les journalistes d'Astrapi, Okapi et France Info. Informations et inscriptions sur franceinfo.fr et bayardjeunesseeducation.com.
Avec numériqueethique.fr, le site proposé par Maïf pour accompagner enfants, parents et enseignants dans leur pratique du numérique au quotidien.
Dans les 20 prochaines minutes, que retenir d'abord de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, à l'Élysée, aujourd'hui? Qu'essaye d'obtenir Emmanuel Macron aussi, alors que ce sont bien les États-Unis qui sont à la manœuvre dans les négociations de paix? Réponse dans une minute. Et puis, c'est reparti pour un tour. Comme chaque année, les industriels et la grande distribution se mettent autour de la table pour négocier les prix en rayon l'année prochaine. Quels sont ceux qui peuvent baisser, ceux qui risquent d'augmenter? Le président de l'Association nationale des industries alimentaires est notre invité. Dans même pas 10 minutes.
France Info, 17h20. Jules de Kiss.
Pas de plan de paix finalisé, mais une phase préalable. Voici les mots et la prudence d'Emmanuel Macron ce soir après une nouvelle journée de visite de Volodymyr Zelensky à Paris, 2 semaines après la dernière. Le président ukrainien, en conférence de presse à l'Élysée, accuse la Russie d'intensifier ses frappes pour briser les Ukrainiens. Quand Emmanuel Macron, lui, somme la Russie d'arrêter l'agression. Bonsoir Paul Barcelone.
Bonsoir Jules.
Service politique de France Info. Le chef de l'État entend mettre la pression toujours sur Vladimir Poutine, mais se montre méfiant aussi quant à la suite des discussions.
Oui, c'est un moment décisif. Voilà ce qui se joue selon Emmanuel Macron, alors que le calendrier diplomatique s'accélère avec demain des discussions à Moscou entre Vladimir Poutine et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff. Si le président américain dit qu'il y a de bonnes chances d'avoir un accord de paix, le président français se montre ce soir nettement plus prudent.
Il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé. Sur la question des territoires, il ne peut être finalisé que par le président Zelensky. Sur la question des actifs gelés, des garanties de sécurité, de l'accession à l'Union européenne, des sanctions européennes, il ne peut être finalisé qu'avec les Européens autour de la table. Donc nous sommes encore à une phase préalable, mais je veux saluer les efforts de paix des États-Unis d'Amérique et l'effort de médiation qui sera fait demain une nouvelle fois.
D'où la difficulté pour Emmanuel Macron à la fois saluer le rôle de médiateur des États-Unis comme pour ne pas fâcher Donald Trump et en même temps sa volonté de maintenir les Européens dans le jeu pour ne pas être relégués au second plan des discussions, voire même effacés de la photo, alors que le président américain et Vladimir Poutine pourraient être tentés, encore une fois, de régler la guerre en Ukraine sur un coin de table.
Les Américains proposent encore quelque chose, ils ont une médiation. Ben voilà, on va attendre la réponse russe. Est-ce qu'ils sont prêts à arrêter le combat, à faire la paix? Je note quand même que ça fait 3-4 fois que les Russes nous ont dit non. Hein. Donc ils ne semblent pas très pressés de la faire. Là où vous avez un président qui a dit oui sur chacun des schémas et nous l'avons soutenu.
Moralité ce soir, selon le président français, la paix, ce n'est pas encore pour maintenant, mais ça va arriver.
Cette visite, il faut le rappeler, Paul Barcelone, de Volodymyr Zelensky, intervient aussi après 2 semaines très difficiles pour l'Ukraine.
D'où le soutien d'Emmanuel Macron au président ukrainien, fragilisé après avoir dû se séparer de son bras droit, désormais ex-chef de cabinet, contraint de démissionner suite à un scandale de corruption.
Est-ce que notre rôle est de donner des leçons, nous, à l'Ukraine? Pas vraiment, il a pu nous arriver d'avoir d'ailleurs des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir les régler avec une justice indépendante. Je note que vous n'aurez jamais de problème de corruption en Russie et que c'est ça qui devrait émouvoir beaucoup. Parce qu'il n'y a pas d'entité indépendante qui gère ces sujets-là.
La vraie dictature est côté russe, martèle Emmanuel Macron, qui sait que les difficultés de l'Ukraine sont aussi militaires sur le terrain qui est fait perpétuellement visé par des attaques et des frappes russes.
Au moment où on parle de paix, la Russie continue de tuer et de détruire. C'est évidemment une insulte au droit et un obstacle à la paix. Lorsqu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens.
Alors que le président semble donc vouloir durcir le ton à ses côtés, Volodymyr Zelensky à l'Elysée reconnaît une avancée de l'armée russe et conclut « Nous essayons de terminer cette guerre de toutes nos forces ».
Merci beaucoup Paul Barcelone, service politique de France Info. Tenir tête à la Russie, à cette menace, ça implique pour la France d'avoir une armée à la hauteur et un budget. Pour cela, c'est l'un des sujets sur lequel le Premier ministre veut avancer en ce moment, en parallèle de tous les débats budgétaires au Parlement. Sébastien Lecornu qui a donc réuni cet après-midi, les députés et les sénateurs impliqués dans cette question, dans un lieu assez inhabituel pour un Premier ministre. Où vous trouvez Audrey Tison? Sébastien Lecornu a présidé cette réunion à l'hôtel de Brienne, chez la ministre des Armées.
Oui, 3 heures de réunion pendant lesquelles le Premier ministre et sa ministre ont surtout fait de la pédagogie devant une cinquantaine de députés spécialistes des questions de défense et des sénateurs également. Réunion à huis clos, sans téléphone, histoire que les informations ne sortent pas au fur et à mesure. Certaines étaient classées défense. Le gouvernement a donc fait le point sur la menace internationale et sur les besoins des armées françaises pour y faire face. 6,7 milliards d'euros, c'est ce que prévoit le gouvernement dans le prochain budget. On a bien compris qu'il voulait qu'on vote ces crédits militaires, glisse un élu qui a participé à cette réunion. Le Premier ministre répond que c'est pour permettre enfin d'avoir un débat détaillé sur des sujets clés qu'il organise ce genre de rendez-vous. Il va d'ailleurs proposer un débat sur les défenses avec un vote final devant l'Assemblée nationale la semaine prochaine, car il considérait que le fait qu'il n'y ait pas eu débat ces dernières semaines est un problème démocratique. Je ne veux pas instrumentaliser la défense nationale pour des questions de politique intérieure, hein, répond aussi Sébastien Lecornu à l'issue de la réunion, tout en insistant, si le budget de l'État n'est pas voté avant le 31 décembre, cela repoussera de fait des investissements. Il demande d'ailleurs à sa ministre des Armées de faire une liste précise des impacts concrets que l'absence de budget aurait pour notre défense en début d'année prochaine. Le Premier ministre, qui n'a pas pu échapper lorsqu'il s'est présenté devant nous les journalistes, a des questions sur le budget à venir et surtout le budget de la sécurité sociale, hein, qui revient à l'Assemblée demain. Il a montré un certain agacement. « Moi, je ne suis pas un papa, chacun doit faire son job », dit-il à destination des députés qui hésiteraient à voter. C'est la dernière ligne droite pour un compromis.
Oui, vote du budget de la Sécu, ce sera le 9 décembre, vote solennel, il recevait un peu plus tôt, hein, Sébastien Lecornu, les socialistes, Olivier Faure, leur chef, a dit qu'on n'y était pas encore, mais que nous progressions vers un budget. Merci beaucoup Audrey Tison avec Fred Kérou au ministère des Armées pour France Info. Il y a tout ce contexte, Volodymyr Zelensky à l'Elysée tout à l'heure en pleine guerre en Ukraine, et il y a un moyen d'en apprendre un peu plus sur cette personnalité qui fait l'actu, bien malgré lui, depuis 4 ans maintenant. Volodymyr Zelensky est le sujet d'une BD biographique qui vient de paraître, ça s'appelle « Au nom de l'Ukraine », signé par 2 auteurs italiens. Et l'album d'ailleurs parle très peu de la guerre, mais plutôt du parcours de ce fils d'ingénieur russophone devenu star de la télé avant de se lancer aux politiques, Augustin Arrivé.
Il a toujours cherché un moyen d'être aimé.
Beloved. Voilà le carburant du président ukrainien, d'après la scénariste Elettra Stamboulis. Ce destin particulier de l'acteur devenu chef de guerre l'a toujours intrigué.
Of course, nobody wants to be in the middle of a war.
Évidemment, personne ne veut se retrouver au beau milieu d'une guerre. Mais alors qui plus est, quand vous êtes un comédien très bien payé à une période faste de votre carrière, qu'est-ce qui vous pousse à devenir un chef de guerre?
Well, it is not easy.
C'est compliqué le sens d'une vie, quelle qu'elle soit.
Un parcours d'autant plus curieux que celui qui s'oppose à la Russie aujourd'hui est russophone de naissance.
He is the last.
C'est le dernier président soviétique. Il vient du RSS, il est un enfant de la guerre froide et en même temps c'est un millénial. J'étais très curieuse de voir comment il gérait ces deux identités.
L'album raconte l'enfance dans une ville minière, puis l'adolescence, les amitiés qui naissent en marge de l'université.
Les années 90 de l'ex-URSS étaient baignées dans le punk et Zelensky a plongé dans cette culture alternative.
C'est ainsi que naît son groupe de comédiens Kvartal 95 pour aller faire littéralement le clown, nez rouge compris, à la télévision ukrainienne.
Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose d'être un clown. Je respecte profondément le rôle des clowns. Ils nous aident à avoir un regard critique sur nous-mêmes. Un bon clown expose les pensées enfouies de son public. C'est comme ça qu'il est devenu le leader dont le pays avait besoin à un moment donné.
Le père du dessinateur est mort en Ukraine l'an dernier. Les toutes dernières pages racontent le déclenchement de cette guerre et cette mue définitive du président en héros d'un peuple le plus malmené que jamais.
Au nom de l'Ukraine, cette bande dessinée de deux auteurs italiens qui vient donc de sortir sur le président Zelensky. Merci beaucoup, Augustin Arrivé.
Les éditions Radio France présentent
42e rue, la grande histoire des comédies musicales.
Une nouvelle édition de l'ouvrage culte qui donne rendez-vous aux passionnés et amoureux du théâtre musical.
Avec plus de 300 photographies, des anecdotes, des témoignages, des portraits d'artistes et toutes les créations de ces dernières années.
Au programme
West Side Story,
Les Demoiselles de Rochefort,
La La Land,
Chicago,
Le Retour des Misérables
et bien d'autres.
42e rue, la grande histoire des comédies musicales.
De Laurent Vallière à Livre France Musique. France Info, 17h-20h.
À suivre, ce moment clé pour le pouvoir d'achat, ce sont les prix qu'on va payer en caisse au supermarché l'année prochaine qui se joue à partir d'aujourd'hui. Début des négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs. Nous recevons dans un instant le président de l'Association nationale des industries alimentaires. Avant cela, le fil info, l'essentiel de l'actualité ce soir avec vous, Sarah Ders. Le bilan des inondations qui s'aggravent en Asie du Sud-Est.
Plus de 1000 morts, plusieurs centaines de personnes portées disparues après les inondations de ces derniers jours. Le bilan toujours provisoire ne cesse d'augmenter en Indonésie, au Sri Lanka, en Thaïlande ou encore en Malaisie. L'avertissement de Sébastien Lecornu après une réunion autour de la défense. Le Premier ministre met en garde contre les conséquences d'une absence de budget sur le volet de la défense. Les dépenses militaires vont augmenter de 6,7 milliards d'euros en 2026 selon le projet de budget actuellement examiné, assure Sébastien Lecornu. L'incendie qui a fait 5 morts en Meurthe-et-Moselle était volontaire selon le procureur de la République. On vient de l'apprendre. Incendie mortel dans la nuit de samedi à dimanche d'un petit immeuble de 9 maisons près de Nancy. Le prochain festival de la BD d'Angoulême officiellement est définitivement annulé après les nombreux appels au boycott par de nombreux acteurs du secteur, très critiques de la gestion du festival d'Angoulême.
France Info.
Si vous faites vos courses au supermarché, les semaines qui viennent vont déterminer en partie votre pouvoir d'achat de l'année prochaine. Les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs débutent aujourd'hui. Ils ont 3 mois devant eux pour fixer les prix des produits en rayon. Et un des acteurs centraux de ces discussions est avec nous dans le 17-20 de France Info. Bonsoir et bienvenue Jean-François Loiseau.
Bonsoir.
Président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Vous représentez environ 20 000 entreprises, des géants internationaux au TPE. Expliquez-nous, jusqu'au début du mois de mars prochain, les fournisseurs et les distributeurs, vous allez vous réunir dans des salles. L'un va dire « nos coûts augmentent » et les autres vont vous répondre que on doit vendre pas cher et tout le monde se bat pour ses marges. C'est ça qui va se passer ?
Oui, alors c'est un peu ça, plus ou moins. C'est une période extrêmement tendue, stressante, parce que les fournisseurs, les industriels que je représente, et vous l'avez dit, évidemment des grands groupes, mais aussi des toutes petites entreprises, 20 000 entreprises, donc plein d'entreprises sur le territoire, des petites entreprises locales et surtout familiales, elles n'ont pas beaucoup de choix que de passer par la grande distribution. Donc nous avons besoin de la grande distribution, mais dans un cadre qui soit, je dirais, un petit peu plus respectueux des parties, notamment de nos entreprises.
Et ce sont quoi ? Ce sont des centaines, des milliers de contrats que vous allez signer en quelques semaines ?
Ah ben, bien sûr, oui, parce qu'en fait, tous les produits qui sont référencés, notamment dans le domaine de l'alimentaire, pour ce que je représente, sont discutés pendant cette période. C'est à peu près 65 à 70% de l'alimentation en France qui passe par la grande distribution, donc c'est une période cruciale.
Voilà, c'est crucial. Pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, on va résumer l'enjeu de ces discussions avec quelques exemples avec la spécialiste conso de France Info, Sophie Auvigne. Sophie, une fois de plus, et notre invitée l'a dit, les discussions s'annoncent tendues.
On n'échappera pas à des bras de fer, en particulier pour les produits qui contiennent du cacao. On a déjà un aperçu des scénarios catastrophes possibles avec l'affaire Lindt contre Leclerc. Il y a quelques semaines, le géant du chocolat a démarché le distributeur pour ses produits de Noël, les Lindor, Pyrénéens, Bois de Champs-Élysées et autres calendriers de l'Avent. Des chocolats proposés, dit-on, avec une très forte augmentation liée à l'envolée du cacao, on n'en saura pas plus. En tous les cas, la hausse n'est pas passée du tout. Résultat, à l'heure qu'il est, il n'y a pas un seul chocolat Lindt de Noël dans les 700 magasins Leclerc. Ça, c'était une négociation saisonnière, isolée, mais qui donne le ton des trois mois à venir. D'ailleurs, Mondelez, numéro 1 du biscuit en France, a déjà prévenu. Il va demander des hausses pour ses marques Milka, Côte d'Or ou même Granola, quand ce sont des biscuits au chocolat.
Bon, c'est bon le chocolat, mais il n'y a pas que ça dans la vie, Sophie Ovine. Quels sont les autres produits sur lesquels les fournisseurs vont demander des hausses ?
Vous vous en doutez, peu de fournisseurs font ce genre d'annonce. Mais le champion européen de la volaille, LDC, a déjà dévoilé ses cartes. Il va proposer plus cher ses plats cuisinés Marie ou encore Tradition d'Asie. Et le groupe s'en explique dans les échos. Les marges nettes de ces grandes marques sont en chute, faute d'avoir pu répercuter les tarifs très élevés des œufs, de la viande et des produits de la mer. Mais bonne nouvelle tout de même pour les consommateurs. Dans l'ensemble, les matières premières agricoles repartent à la baisse, très nettes pour l'huile, mais aussi pour le soja. Ça commence pour le café et même pour notre fameux cacao.
Jean-François Loiseau, président de l'Association nationale des industries alimentaires. On peut peut-être commencer avec cet exemple précis. Le cacao, une pâte à tartiner, des biscuits, une tablette, jusqu'à combien ça va pouvoir augmenter l'année prochaine ?
Alors très concrètement, je ne sais pas, mais il y a une chose qu'il faut bien qu'on ait en tête, c'est que ce sont des matières premières agricoles. Et donc, le prix fluctue en fonction du niveau de production, du volume. Donc le cacao, c'est une partie de l'Amérique centrale, certains pays d'Afrique ou même d'Asie. Les conditions climatiques ne sont pas au rendez-vous, les volumes baissent, donc les prix montent. Donc ces prix qui montent, nous ne pouvons pas ne pas les facturer aux distributeurs.
Mais là justement, Sophie Levine nous disait que la matière première allait plutôt
monte,
baisser.
L'essence monte. Mais en général,
les marges ont diminué cette année. Donc est-ce qu'en quelque sorte, on rattrape l'année prochaine les marges qui ont diminué cette année ?
Non, mais si vous voulez, d'une manière générale, c'est vrai, les matières premières baissent. En général, les céréales, on est bien d'accord. Le café, le cacao ont énormément augmenté pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est comme le pétrole. Quand le pétrole monte, l'essence monte. Je ne vois pas pourquoi, quand le cacao monte, le chocolat ne monterait pas. Les industriels, c'est entre 1 et 3% de résultats nets. Et nous devons, alors je ne vais pas me plaindre tous les matins, mais si vous voulez, la relation avec un distributeur, elle est compliquée. Vous avez 3 à 4 centrales d'achat en France. Vous avez 20 000 entreprises en face. Donc le rapport de force, il est joué déjà. Alors, donc, nous devons transférer les prix de marché si on veut payer la matière agricole au juste prix.
Quels sont les autres produits, au-delà des produits à base de chocolat, de café, mais dans les grandes lignes sur lesquelles il faut s'attendre à des hausses de prix pour l'an prochain ?
Y a un produit qui est emblématique, mais qui donne bien, je dirais, la doctrine française qui s'est étiolée. Les œufs. On a fait des réglementations extrêmement contraignantes pour l'élevage français, pour les producteurs français, pour diminuer les poules en cage et favoriser le plein air. Moyennant quoi, dans d'autres pays d'Europe, en Ukraine, tiens, au passage, sans aller en Inde ou au Brésil, on produit des œufs à des coûts quasiment 50 à 60% plus bas que les nôtres. Et ces œufs-là arrivent sur le marché européen français. Si nous voulons des œufs français de qualité, il faut les payer. Si Leclerc, Intermarché, Auchan, la grande distribution ne veut pas payer ses œufs au juste prix, parce qu'il y a une réglementation, il y a des producteurs, et ben il y aura moins d'œufs et en toute façon, il faudra aller chercher des œufs ailleurs.
Donc les œufs français vont augmenter par exemple l'année prochaine ?
Mais les œufs ont déjà augmenté cette année. Je veux dire, si vous allez faire vos courses, vous verrez que les œufs sont très chers. Parce qu'il y a un manque. Et ce sera pareil, mais attention, si nous ne décidons pas collectivement de relancer l'élevage et donc la production des œufs en France.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les préparations, tous les plats préparés, les pâtisseries, etc., qui comprennent des œufs vont augmenter. C'est plutôt ça qui se joue là dans les prochaines semaines. Jean-François Loiseau, bon, on a parlé des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, quand même, vous l'avez dit, les matières premières agricoles baissent. Donc il y a quand même aussi toute une série de produits qui vont baisser l'année prochaine. Les prix vont baisser.
Oui, mais je suis désolé, je suis obligé de faire une réponse un peu plus longue. Mais si vous voulez, dans la constitution d'un prix final. D'abord, les négos, je le rappelle, ce sont des négos entre l'industriel qui propose un prix de vente et le distributeur qui achète. Oui. Mais ensuite, le prix en rayon il n'est pas décidé par le distributeur. Il n'est pas décidé, pardon, par l'industriel. Le prix en rayon est décidé par le distributeur. Et ce dernier prend la marge qu'il veut. Bon, au-delà de la matière première agricole, on oublie les salaires, l'énergie, des coûts de transport, les taxes.
Mais vous ne pouvez pas nous donner quelques, quand même, pour qu'on ait un petit peu de quoi se réjouir ce soir, des produits dont le prix risque de baisser?
Non, mais non. Alors, si jamais ça ne baisse pas, je vais me faire enguirlander par les consommateurs. Donc, bon. Non, mais d'une manière générale, les industriels, l'année dernière, vous voyez, on va parler de ce qu'on sait vraiment, avaient demandé 4,5% d'augmentation. Les augmentations ont été atteintes à hauteur d'à peu près 1,5%. Les 4,5% demandés d'augmentation étaient pour payer des salaires, de l'énergie. Bon, on n'a eu que 1,5%. Donc, ça veut dire que la différence, elle se prend dans la poche de l'industriel. Et quand je parle d'industriel, je ne parle pas que des grandes marques internationales. Je parle des petites boîtes.
Donc, vous allez demander des compensations. Donc, ça risque d'augmenter plus cette année.
Mais de toute façon, il faut des compensations. Et pourquoi nous voulons avoir des relations apaisées avec la grande distribution, c'est pour justement que la grande distribution reconnaisse le juste prix. Et le juste prix, ce n'est pas forcément le prix le plus bas. Le prix le plus bas, il tue les entreprises.
Eh bien, on verra si les discussions sont plus apaisées. Vous avez signé une charte, vous, Lania, avec d'autres représentants des fournisseurs, avec les distributeurs, pour fixer un cadre, pour permettre justement des négociations plus apaisées, tenir les délais aussi, à l'initiative du nouveau ministre du Commerce, Serge Papin, un ancien de la grande distribution. On verra si les choses changent et surtout vers quelles augmentations et baisses de tarifs on aboutit dans les prochains mois. Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Info, Jean-François Loiseau, président de Lania, l'Association nationale des industries alimentaires, alors que débutent les négociations commerciales avec les distributeurs.
L'eau minérale naturelle Saint-Yor vous propose ses conseils hydratation. Une question à sa spécialiste minéralité. Quelle eau choisir lors d'un repas copieux ?
C'est vrai qu'après un bon repas, la digestion est parfois difficile. Faut dire que notre alimentation moderne est souvent déséquilibrée avec beaucoup d'aliments riches et peu de fruits et légumes. En fait, il y a un réflexe simple à adopter. Boire de l'eau minérale qui va aider à stimuler la digestion et de préférence à choisir des eaux riches en minéraux comme l'eau minérale naturelle Saint-Yor. À boire tout au long de la journée et plus particulièrement pour accompagner les repas copieux.
Voilà un bon réflexe pour les fêtes. Merci pour ces conseils et à bientôt. Plus d'infos sur ceinture.com. France Info Météo, avec les cafés Malongo, torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Le temps, Stéphanie Fromentin.
Demain, il est perturbé du sud-ouest vers les Hauts-de-France en passant par la Champagne-Ardenne. Les pluies sont fréquentes en journée. Il neige sur les Pyrénées à partir de 1200 mètres. À l'arrière de cette perturbation, donc sur la Bretagne, la Normandie, puis la façade atlantique, les éclaircies se développent, mais les averses reviennent l'après-midi, plus marquées sur le littoral et accompagnées de vents soufflant entre 50 et 60 km par heure. Sur la façade est, le ciel restera gris, souvent très nuageux avec l'arrivée de pluies en soirée. Un épisode méditerranéen se met même en place sur le sud-est. Les pluies qui s'intensifient en cours de journée se calmeront en soirée mais donneront de bons cumuls sur le Gard et de l'ouest des Bouches-du-Rhône vers l'Ardèche. Il neige sur le sud du massif central à partir de 1200 mètres, s'abaissant en cours de nuit vers 800-1000 mètres. Quant aux températures, elles affichent une belle fraîcheur hivernale, 7 à 12 degrés en général, 13 à 17 sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse.
Merci beaucoup Stéphanie Fromentin. Il est 18h32. L'info Yasmina Adila.
Sébastien Lecornu met en garde contre les conséquences d'une absence de budget, notamment sur le volet défense. Le Premier ministre qui s'est exprimé en fin de journée aux côtés de Catherine Vautrin, ministre des Armées. Selon le chef de l'exécutif, les dépenses militaires vont augmenter de 6,5 milliards d'euros sur les deux prochaines années. Une augmentation de budget dans un contexte international tendu, en raison notamment de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a reçu son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky aujourd'hui à l'Élysée. Les deux chefs d'État se sont exprimés en toute fin de journée sur le plan de paix proposé par Donald Trump. Il ne peut être finalisé qu'avec l'Ukraine et les Européens, dit Emmanuel Macron. La Russie ne doit pas être récompensée pour son invasion de l'Ukraine, demande de son côté Volodymyr Zelensky. Deux mineurs mis en examen à Paris pour association de malfaiteurs terroristes. Selon le parquet national antiterroriste, ils sont soupçonnés d'avoir préparé un projet d'attaque antisémite. Interpellé mercredi dernier par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Deux policiers jugés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Créteil pour avoir percuté un motard sur une autoroute proche de Paris sur l'A4, c'était le mois dernier. Des faits diffusés sur les réseaux sociaux et qui avaient provoqué l'indignation. Lors de l'audience, le procureur a requis contre les deux agents 18 mois de prison avec sursis. Tout l'enjeu de l'audience, c'est de savoir s'ils ont percuté le motard de manière volontaire, Aurélien Tirard.
Face au tribunal, un binôme de policiers, ils font profil bas. L'un affiche 30 ans de métier, le second a seulement 26 ans. Tous deux ont bien du mal à expliquer pourquoi cet après-midi d'octobre sur l'autoroute A4 près de Paris, ils percutent ce motard avec leur voiture siglée police. J'ai pris une décision assez soudaine et brutale. Je n'ai jamais voulu percuter ce motard, assure le conducteur. Je ne voulais pas lui faire peur. J'allais vite car mon collègue était malade. La victime, Hugo, a un souvenir bien différent.
Ils viennent de la voie de gauche vers la voie de droite pour me percuter et me faire tomber. En même temps qu'il se déporte, la fenêtre se baisse et il sort son bras pour venir me taper, me percuter. Sous le choc, incompréhension. Bien évidemment que c'est intentionnel, j'ai compris la situation tout de suite.
C'est ce geste du policier passager qui laisse le tribunal perplexe, vu à des millions de reprises sur les réseaux sociaux. Un geste réflexe se défend maladroitement le policier, sans pouvoir vraiment l'expliquer. La présidente a beau les relancer, on n'en saura pas plus. Ça ne tient pas debout, c'est du virilisme de chauffard, dénonce de son côté l'avocat du motard. Le procureur enfonce le clou, la vidéo est claire, limpide et édifiante, c'est intentionnel et dénonce des faits graves qui porte atteinte, dit-il, à la confiance que les citoyens ont en la police. De son côté, l'avocate d'un des policiers l'assure. Leurs explications sont cohérentes. Ce n'est pas du tout farfelu.
Aurélien Tirard. L'appel à la grève de demain devrait avoir peu d'impact sur les transports, selon les prévisions de trafic annoncées aujourd'hui par le ministre Philippe Tabarot. Le trafic TGV devrait être normal. Quelques perturbations sur les réseaux intercités. Certains TER en Occitanie notamment. Des difficultés aussi à prévoir sur le RERC en région parisienne. Les syndicats qui appelle au débrayage pour peser sur le projet de budget en ce moment discuté au Parlement. L'appel à la plus grande vigilance de France Travail, son site et celui de la mission locale qui aide à trouver un emploi aux jeunes victimes de cyberattaques. Les données personnelles de plus d'1,5 million de jeunes donc susceptibles d'être divulguées. Ce sont surtout les noms, les prénoms et les numéros de sécurité sociale qui ont été piratés.
Merci Yasmina Adila. Il est 18h36. Dans un instant, vous en parliez. Vers quel budget se dirige-t-on ? Rencontre entre le Premier ministre et les socialistes tout à l'heure. Dans quelle mesure font-ils peser leur rôle d'arbitre ? On va voir cela. Alors qu'un nouveau rapport sur la fiscalité des grandes fortunes vient nourrir ces débats budgétaires. On vous le détaille dans un instant.
France Info, 17h20. Jules de Kiss.
On n'y est pas encore, mais cela progresse. Voilà en substance ce que les socialistes pensent du budget de la Sécu en l'état actuel des discussions. Leur chef Olivier Faure a rencontré tout à l'heure le Premier ministre Sébastien Lecornu à un peu plus d'une semaine du vote solennel sur le texte à l'Assemblée. Bonsoir Elia Bergel.
Bonsoir Jules.
Service politique de France Info. Les socialistes veulent croire à un compromis.
Oui, les choses semblent avancer, disent les socialistes. Quasiment deux heures de réunion avec Sébastien Lecornu. Ce midi, optimisme prudent d'Olivier Faure, le patron du PS à la sortie.
Nous pouvons dire que nous progressons, que nous sommes dans une approche qui peut permettre d'aboutir à un compromis.
Il reste 8 jours pour que les socialistes se décident, 8 jours avant le vote mardi prochain sur la totalité du budget de la Sécu à l'Assemblée nationale. Et pour que le texte ait une chance de passer, il faut au minimum que le PS s'abstienne.
C'est une négociation âpre avec des points de vue qui sont très différents au départ. Et nous jugerons en fonction de ce qui nous est présenté in fine. Avec un seul objectif, faire en sorte que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale se fasse au bénéfice de celles et ceux qui ont le moins de moyens.
Les socialistes mettent sur la table plusieurs points précis pour monnayer leur abstention sur ce texte. Entre autres, la suspension de la réforme des retraites, pas de gel des prestations sociales ou des pensions de retraite l'an prochain, des mesures obtenues en première lecture à l'Assemblée, mais depuis détricotées par le Sénat.
Et pour obtenir définitivement ces avancées, le PS a besoin que le Premier ministre tienne ses troupes à l'Assemblée nationale.
Oui, ce qu'on appelle parfois le socle commun. En gros, les macronistes, le Modem, les Horizons, les troupes d'Édouard Philippe et de temps en temps, les Républicains, drôle de coalition qui ne votent pas toujours la même chose. Le PS les accuse de ne pas jouer le jeu du compromis dans l'hémicycle.
Il faut que la responsabilité, elle soit dans tous les camps. Ça ne peut pas être le seul apanage des socialistes qui devrait, pour tous, être responsable. Nous sommes prêts à prendre notre part de la responsabilité. Ça suppose que chacun en prenne aussi sa part. Voilà.
Mise en garde d'Olivier Faure.
Chacun doit comprendre que s'il n'y avait pas de PLFSS, ce serait en fait un déficit pour la Sécu de 30 milliards.
Le chemin est encore long pour Sébastien Lecornu, car la seule abstention des socialistes ne suffira pas pour faire passer mardi prochain le budget de la Sécu. Le Premier ministre doit aussi convaincre les Verts de s'abstenir, tout en s'assurant du soutien de l'ensemble de la coalition gouvernementale. Bref, équation très compliquée, où les feux verts des uns sont parfois les lignes rouges des autres.
Elia Bergel, service politique de France Info, est dans cette dernière ligne droite, plein de feux rouges et de feux verts, donc du débat budgétaire. C'est à coup sûr un rapport qui va nourrir les discussions. Son titre, corriger les principales distorsions de l'imposition du patrimoine. Il est l'œuvre du Conseil des prélèvements obligatoires, organe rattaché à la Cour des comptes. Et ce rapport, bah, vous l'avez lu pour nous, Camille Revel, bonsoir.
Bonsoir.
Service Éco de France Info. C'est un diagnostic sévère qui dénonce une fiscalité forte, complexe, inégalitaire et peu efficace. Et donc, le Conseil des prélèvements obligatoires propose de tout remettre à plat.
Oui, et pourquoi dénonce-t-il cette fiscalité avec des mots effectivement si sévères? Si je résume grossièrement, pour le Conseil, tout est taxé, les revenus du patrimoine, sa détention, sa transmission, mais pas de la meilleure des façons. La taxe foncière, par exemple, semble très inégalitaire, alors que cette taxation du patrimoine a rapporté plus de 113 milliards aux caisses de l'État l'an dernier. Elle est lourde, mais pas assez équitable, dit ce rapport. D'un côté, les taxes sur les transactions immobilières freinent la mobilité des ménages, et de l'autre, de nombreuses niches fiscales viennent rogner le rendement de la taxation des successions et donations des contribuables les plus fortunés. Tout cela, juge le Conseil, crée un sentiment d'injustice qui fragilise l'acceptation de l'impôt.
Et donc, que propose le Conseil des prélèvements obligatoires pour corriger tout ça?
Pour faire court, de tout revoir. Mais en priorité, de revoir la fiscalité des transmissions, emblématiques des dérives de la fiscalité française, dit-il, et mettre plus à contribution les plus riches. Le Conseil des prélèvements obligatoires propose deux scénarios. Le premier, une taxation des liquidités qui dorment dans des holdings, assortie d'un impôt différentiel pour les transmissions des grandes fortunes, donc au moment de la succession, contribution qui prendrait en compte les actifs professionnels. Attention, sujet très inflammable, l'outil professionnel, on en a beaucoup parlé lors des débats autour de la taxe Zucman. Deuxième scénario, je cite, plus ambitieux, qui rapporterait 2,7 milliards. D'abord, avec un coup de rabot sur le pacte Dutreil, dispositif d'exonération dont on a parlé sur France Info, lors de la transmission d'une entreprise familiale, et puis un impôt différentiel sur la fortune personnelle. Ça vous rappelle l'ISF, mais la différence, c'est qu'il aurait un taux modéré et ne serait pas plafonné. Le Conseil des prélèvements obligatoires propose aussi de raboter la niche fiscale de l'assurance-vie.
Bon, ça fait beaucoup de propositions. Est-ce qu'on peut imaginer que ces recommandations soient mises en œuvre, en application?
Disons que si on veut être très prudent, on peut dire que ça va contribuer à nourrir les discussions budgétaires. Mais je vais m'avancer un petit peu plus. La taxe holding, c'est dans l'esprit de ce que propose le gouvernement. Mais les sénateurs, comme les députés avant eux, viennent de la vider de sa substance. Recentrer le pacte Dutreil. Ensuite, ça fait bondir le patronat. Le gouvernement est très réservé sur la question, même si c'est vrai, les députés l'ont un peu resserré dans le cadre de l'examen du budget, mais notamment avec le vieillissement de la population et la transmission du patrimoine de la génération du baby-boom. On en a parlé, Jules, dans le 17-20 de France Info. Le débat sur les inégalités de patrimoine est très loin d'être clos.
Oui, la grande succession, vous nous en avez parlé, Camille, 9 000 milliards d'euros de transmission d'ici 2040. Donc forcément, la fiscalité autour de cette somme immense est un débat. Merci beaucoup, Camille Revel, service éco de France Info. Il y a tout ce débat budgétaire avec les échéances, les votes solennels attendus pour le mois de décembre. Et l'autre échéance politique du moment, ce sont les élections municipales. Vote en mars prochain. Bonsoir Pierrick Bonneau.
Bonsoir.
Service politique de France Info. Le Rassemblement National affiche sa mise en ordre de marche. Aujourd'hui, déjà 600 têtes de liste investies sur l'ensemble du territoire, contre seulement 410 au total. Ça, c'était en 2020. Les candidats investis par le parti, 50% de plus qu'il y a 5 ans donc, mais il y a aussi ceux auxquels le RN apportera son soutien. Expliquez-nous, il y a une différence?
Alors c'est très simple en fait, un candidat qui est investi part dans la course avec l'étiquette du parti, un candidat qui est soutenu reste sans étiquette et peut garder une certaine forme d'indépendance, sauf que le RN n'offre pas son soutien à n'importe quelle condition pour les municipales. Il doit signer, le candidat, au préalable une charte de 13 engagements que détaille le directeur de campagne du RN pour les municipales, Julien Sanchez.
Pas de soutien pour un maire ou un candidat qui ne s'engage pas à ne pas augmenter les taux de la fiscalité pendant son mandat. Deuxièmement, faire de la lutte contre la délinquance et l'insécurité une priorité. Rejeter toute subvention aux associations incitant à l'immigration massive sur le territoire français.
Parmi ces 13 engagements, vous l'entendez, les grandes lignes du programme du RN, lutte contre l'insécurité et l'immigration, la préservation du pouvoir d'achat des Français. Mais pour s'attirer la bienveillance du parti qui ne présentera donc personne face à eux, les candidats devront aussi promettre de soutenir le RN à la présidentielle et au sénatorial, car c'est une stratégie à double, voire à triple détente, faire élire des maires et des conseillers municipaux qui promeuvent les idées de l'extrême droite et qui voteront ensuite pour élire les sénateurs. Grâce à ces nouveaux élus municipaux, Julien Sanchez vise l'élection d'au moins 15 sénateurs RN en septembre 2026, 5 fois plus qu'aujourd'hui, de quoi constituer un groupe dans la Chambre haute, et ce serait une première dans l'histoire de la Ve République.
Pierrick Bonneau, puisque nous parlons des municipales parmi les villes, et pas des moindres, sur lesquelles mise le Rassemblement national, il y a Marseille, deuxième ville de France.
Où c'est le député Franck Alizio qui défendra les couleurs du parti à la flamme face au maire sortant, le socialiste Benoît Payan, la présidente de la métropole Martine Vassal, investie par Renaissance, et l'insoumis Sébastien Delogu, pour ne citer qu'eux. Il y a 3 semaines, un sondage a été surrelayé par les équipes du candidat du RN. Il donnait Franck Alizio au coude à coude avec Benoît Payan au second tour. Et ce matin, Martine Vassal, la candidate d'hiver droite, a jeté le trouble en n'excluant pas chez nos confrères de Sud Radio une éventuelle alliance avec le RN au second tour. On verra à ce moment-là, levée de bouclier des macronistes, la candidate a dû rectifier le tir quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux en affirmant qu'elle n'envisageait pas de s'allier avec les extrêmes. Mais dans le camp de Marine Le Pen et Jordan Bardella, on prend ça comme une ouverture. Il y a une volonté de rejoindre une dynamique qui est de notre côté, se réjouit-on, au Rassemblement National.
Parfois éruptif, la politique et les volcans n'ont pas fini de rugir. D'ici mars prochain, la campagne des municipales sera longue. Merci beaucoup, Pierrick Bonneau, service politique de France Info. Il est 18h45.
France Info, 17h-20h.
L'heure de rappeler l'essentiel de l'actu en cette soirée, Yasmina Adila, en Meurthe-et-Moselle. L'incendie mortel de ce week-end est volontaire.
C'est une annonce ce soir du procureur. Le feu qui a pris dans la nuit de samedi à dimanche dans une habitation de 9 maisons, petite commune située près de Nancy. 5 morts au total, un couple, leur fils et ses 2 amis âgés de 17 à 20 ans. Sébastien Lecornu met à nouveau en garde sur les conséquences d'une absence de budget, notamment sur le volet de la défense. Le Premier ministre qui s'est exprimé en fin de journée aux côtés de Catherine Vautrin, la ministre des Armées. Selon le chef de l'exécutif, les dépenses militaires vont augmenter de 6,5 milliards d'euros sur les 2 prochaines années. Une augmentation notamment à cause de la guerre en Ukraine. Un plan de paix est discuté depuis hier en Floride aux États-Unis. Emmanuel Macron lui a reçu aujourd'hui son homologue ukrainien. La Russie ne doit pas être récompensée pour son invasion, a demandé Volodymyr Zelensky. Les factures de gaz et d'électricité vont augmenter d'une 50aine d'euros dès le 1er janvier. Pour les consommateurs qui n'ont pas de contrat à prix fixe, cette hausse concernera surtout les clients d'EDF et d'Engie. Conséquence des changements sur les certificats d'économie d'énergie. Ce dispositif qui repose sur le principe du pollueur-payeur.
France Info.
Que se passe-t-il derrière la ligne jaune depuis le cessez-le-feu à Gaza il y a presque 2 mois? L'armée israélienne occupe 53% de l'enclave. Aujourd'hui, elle a installé des postes militaires censés être temporaires et elle surveille de près les Palestiniens de l'intérieur sous administration du Hamas qui tenterait de traverser. Des dizaines d'entre eux sont morts. D'autres Palestiniens, eux, ont le droit de vivre en zone occupée. Thibault Lefebvre, qui sont-ils et que font-ils?
La dernière apparition d'Oussam Al-Astal date d'il y a un peu plus d'une semaine. Arme automatique en main, devant une douzaine d'hommes masqués, cet ancien sous-officier de l'autorité palestinienne menace le Hamas des ruines de sa ville natale de Khan Younes, évidemment partie occupée par Israël.
Sa réputation est vraiment mauvaise. On le connaît à Gaza comme un collaborateur.
Michael Milstein est un ancien des services secrets militaires de l'État hébreu et spécialiste des réseaux palestiniens.
On parle d'un groupe armé, avec à sa tête quelqu'un qui semble incapable de diriger ou d'être une alternative au Hamas.
C'est pourtant l'objectif des autorités israéliennes qui financent et arment ces gangs pour remplacer l'organisation islamiste. Autre figure de la collaboration avec l'État hébreu, le bédouin de la tribu des Tarabin, Yasser Abou Shebab. Il occupe une partie de Rafah, c'est au sud de l'enclave.
Beaucoup des membres de ce groupe ont été impliqués dans des activités terroristes contre Israël. En faire un partenaire, c'est très suspect.
Michael Milstein compte 4 autres groupes palestiniens sous la coupe des Israéliens, mais aucun, selon lui, n'est aujourd'hui capable de diriger seul la bande de Gaza.
Et pour quelle raison, Thibault Lefèvre ?
Eh bien d'abord parce qu'ils sont divisés, impossible d'imaginer par exemple une alliance des Al-Astal avec les Abou Shebab ou des Al-Mansi à l'est de Gaza avec les Ilis au nord. Chacun a une emprise territoriale définie et ne prétend pas s'étendre. Et puis le Hamas se réorganise et se renforce depuis le cessez-le-feu, évidemment dans la partie de Gaza qui l'administre. Ses dirigeants ont promis de faire la peau à tous les collaborateurs. Début octobre, des miliciens islamistes ont par exemple assassiné des membres du clan d'Ormouche accusés de travailler avec les Israéliens. Pour Michael Milstein, l'alternative pour ces gangs est claire. C'est la mort ou la fuite avec les Israéliens, à l'image, dit l'ancien espion de l'armée du Liban Sud il y a 25 ans, contrainte de suivre les soldats de l'État hébreu dans leur retrait.
Thibault Lefèvre, correspondant de France Info à Jérusalem, sur la situation actuelle dans la bande de Gaza, les habitants palestiniens face à l'armée israélienne. Il est 18h49 et en cette journée mondiale de lutte contre le sida, on en vient à cette alerte que lance l'association SIDAction. Elle s'inquiète d'une montée spectaculaire des discours masculinistes sur les réseaux sociaux et de leur impact sur la santé sexuelle des jeunes et donc sur la lutte contre le VIH. Des vidéos sur TikTok d'influenceurs aux discours virilistes qui font la promotion de pratiques à risque comme le sexe sans contraception. Un sondage OpinionWay commandé par l'association SIDAction mesure donc qu'un jeune de 16 à 34 ans sur 3 consulte ces contenus-là sur les réseaux. Et ce discours, il a donc un écho chez les jeunes garçons. Vous l'avez constaté, Marc Bertrand, à la sortie d'un lycée de Bergerac en Dordogne.
Yanis balance son sac à dos sur son épaule à la sortie des cours, 17 ans, puff à la main. Le lycéen avoue qu'il a des rapports sexuels sans préservatif.
En vrai, juste, vous faites la technique du retrait et puis voilà, quoi. Ouais, y a pas besoin. C'est-à-dire, on s'extrait de la cavité vaginale et on éjacule à l'extérieur. Ça permet qu'on n'achète pas de préservatif et qu'on prenne du plaisir en même temps. Puisque selon moi, je pense que dès qu'on met une capote, on a moins de plaisir que si on n'en met pas.
L'adolescent sait que c'est une pratique à risque, ça ne le freine pas.
Non, en vrai, non. Moi, j'ai jamais vraiment eu peur. Je sais pas pourquoi. J'ai déjà fait ça, du coup, c'était cool. Et elle n'est pas tombée enceinte et il n'y a pas une maladie à ce que je sache. Et voilà quoi.
Sur les réseaux sociaux, tout son groupe de copains a déjà vu passer ces vidéos qui prônent le sexe sans protection.
Sur TikTok, Insta, on peut retrouver sur toutes les plateformes, X. La plupart du temps, ils disent que c'est inutile ou que ça réduit le plaisir avec la partenaire.
Voire même des pratiques violentes.
Beaucoup de machos qui prônent la masculinité, la virilité et tout. Ouais. En mode, un homme, faut qu'il soit viril, faut qu'il domine une femme et tout, alors que c'est la merde.
Du contenu qui choque. Et ça va être vraiment republié, ça va être mis en avant et après ça va revenir dans tes pour toi, ainsi de suite.
C'est pour faire parler. Le groupe des filles est de l'autre côté de la rue.
Camille,
la jeune fille de terminale confirme.
Sur les réseaux, c'est banalisé de le faire sans se protéger.
Le sida et les maladies sexuellement transmissibles, elle avoue qu'elle n'y pense absolument pas.
On pense pas du tout au sida en fait. Je vous mens pas, moi j'avais même pas pensé au sida. Je pense juste à ne pas tomber enceinte et pas de report au sida genre.
Il y a plein de filles qui prennent la pilule et du coup elles se disent qu'il y a pas besoin de mettre de préservatif.
Les ados disent pourtant tous qu'ils ont eu des cours d'éducation sexuelle à l'école, mais ils disent aussi tous qu'ils n'en ont pas eu depuis le collège.
Parole d'ado au micro France Info de Marc Bertrand. Si vous êtes parent d'adolescents, ce qui suivre va également vous intéresser. On va parler de lecture avec cette question. Comment réenchanter la lecture aux yeux des jeunes qui préfèrent parfois les écrans aux livres ? Eh bien, c'est la question que se posent les états généraux de la lecture et surtout à laquelle ils répondent avec aujourd'hui toute une série de propositions pour que la lecture de l'école à la maison ne soit plus considérée, comme elle l'est souvent, comme une corvée. Régine Atchondo, la présidente du Centre National du Livre, est venue tout à l'heure sur France Info nous présenter les pistes pour répondre à cette question.
Ces états généraux ont réuni quand même plus de 36 000 réponses, dont 6 000 réponses de jeunes. Et donc, ont aussi donné la parole aux jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, eux considèrent que ce n'est pas uniquement les écrans ou une forme d'addiction aux écrans, même si ce terme n'est pas totalement reconnu encore par la science. Au fond, elle est quand on passe 7 à 10 heures par jour, on peut considérer qu'il y a une forme d'addiction sur un écran. Les jeunes, eux, parlent aussi de beaucoup d'autres facteurs qui sont très intéressants et que nous devons entendre. Ils parlent de leurs difficultés cognitives à bien comprendre la lecture. Et donc, on peut imaginer à y prendre du plaisir, parce que je pense que si c'est une souffrance, ça ne peut pas être un plaisir, alors que la lecture doit rester un plaisir. Ils parlent beaucoup du fait que dès l'instant où ils sont jugés sur la lecture, c'est-à-dire en gros à partir de la sixième, ils ont le sentiment de perdre là aussi la relation plaisir avec un livre parce qu'ils se sentent évalués et que donc cela crée du stress. Ils évoquent aussi le fait que leurs parents passent beaucoup de temps sur les écrans, ce qui les encourage pas à ne pas le faire. Ils parlent aussi de leur envie d'avoir une plus grande liberté de choix et de diversité dans les lectures qui leur sont conseillées.
Mais la question, donc, c'est justement, pardonnez-moi, c'est comment renouer, justement, vous parlez de plaisir de lire, comment on essaie d'inculquer à des très très jeunes ce plaisir de lire, comment on renoue avec ce plaisir ?
Il faut commencer très très jeune. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle porte sur le continuum de lecture nécessaire de 0 à 18 ans. Donc ça veut bien dire que la relation à un livre se construit dès 3-4 mois. Et ça, tous les pédiatres le confirment, le disent et l'encouragent. Et comment peut-on faire ? En les écoutant sur diversité du choix, probablement en améliorant la qualité de l'apprentissage pour que la lecture leur devienne naturelle et ne soit plus un effort. Et puis, comme le dit Sylvie Chocron, en régulant, en tous les cas, en veillant à la place des écrans dans la vie des jeunes, et en particulier les adolescents, en tous les cas à partir de l'âge de 12 ans, parce que la facilité avec laquelle on est sur les réseaux sociaux, comparée à la concentration nécessaire à la compréhension d'un texte, abîme la relation au livre, au-delà du temps qu'on y passe sur les écrans. C'est cette immédiateté qui empêche l'installation d'un temps long pour les jeunes gens. Donc, au fond, il y a dans ce que je vous dis des constats qui sont graves et qui sont confortés par le travail que nous menons au Centre national du livre et que le ministère de la Culture mène depuis plusieurs années. Il y a en même temps un message d'espoir. La lecture intéresse parce que 36 000 personnes qui répondent en 3 mois, c'est énorme. C'est beaucoup plus que des états généraux portant sur d'autres sujets qui intéressent pourtant les Français comme celui de la justice. Donc on peut considérer que rien n'est perdu à partir du moment où cette conscience aiguë de l'importance de la lecture dans la vie des jeunes et des adultes est un élément, est un facteur essentiel au développement de la société, de la communication entre les êtres.
L'enjeu de la lecture chez les plus jeunes. C'était donc Régine Atchondo, la présidente du Centre National du Livre, qui répondait aux questions France Info de Renaud Blanc. Un peu de musique à présent. Faire de la musique, mais avec un robot, le tout quand même sans intelligence artificielle. C'est le pari d'un Français, Émile Sornin, qui vient de sortir avec son projet Forever Pavot, son 6e album, Melchior Volume 1. Victime, selon ses dires, d'un manque d'inspiration, il a construit donc un robot pour l'aider à vaincre la page blanche. Et visiblement, cela a fonctionné, Yann Bertrand.
Émile Sornin a l'habitude de sortir des clous avec son projet Forever Pavot. Il a distribué des chocolats avec un disque, enregistré un album avec des instruments trouvés dans des petites annonces. Ici, il est allé encore plus loin. Lui, c'est Melchior Star de ce 6e album, un robot construit avec son compère Jonas Œuvremer, au look très hipster, bouche et yeux articulés, et qui se retrouve crédité sur l'album. Émile Sornin le jure, sans lui, il n'aurait rien fait.
C'est un peu lui qui m'a permis de sortir un peu de mon confort. En fait, je tournais un peu en rond avec ces espèces de recettes de musique 70s, avec du clavecin, des pianos, des arrangements un peu élégants, on va dire. Et lui, il m'a dit, vas-y, t'arrêtes des conneries, t'arrêtes de mettre du clavecin partout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un disque un peu plus électronique et surtout plus épuré. Il m'a permis d'enlever un peu toutes ces couches que j'ai tendance à mettre sur ma musique qui peut être un petit peu indigeste.
Sera rassure, l'univers très cinématographique imbibé de François de Roubaix ou d'Ennio Morricone est toujours très présent chez Forever Pavo. Célébré il y a 2 ans pour sa bande originale de Simple comme Sylvain de Monia Chokri, loin des grosses machines, Melchior étant un peu l'antithèse des menaces robotiques du présent.
Je ne peux pas expliquer exactement quel type de technologie, ça serait trop long et un peu complexe à expliquer, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus artisanal. D'ailleurs, il s'est pris la tête il n'y a pas longtemps avec ChatGPT, ils sont un peu en bisbille en ce moment. C'est un robot qui est fabriqué maison, avec très peu de compétences de robotique, donc c'est quand même un peu à contre-courant de toutes ces intelligences artificielles qui sont beaucoup plus élaborées, beaucoup plus complexes. Nous, on est dans quelque chose d'un peu plus direct et presque enfantin, en fait.
Car si on entend le vocodeur, les morceaux visent beaucoup plus large à la mesure de ce que leur créateur a ressenti avec cette expérience à deux.
Ça m'a redonné vraiment énormément d'inspiration et puis c'est très excitant. J'ai l'impression d'avoir un nouveau groupe, presque comme si j'avais 15 ans avec mon premier groupe. C'est vraiment très très stimulant, quoi.
Et après le travail en studio, évidemment, Melchior partira en tournée avec Forever Pavo, un membre du groupe de scène à part entière.
Forever Pavo en concert le 28 janvier prochain à Rennes, le 12 février à Paris ou encore le 28 mars à Nantes. Merci Anne Bertrand.
France Info Météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Stéphanie Fromentin.
La perturbation qui progresse cette nuit vers l'est va lâcher quelques pluies modérées en soirée sur un large quart nord-ouest. Elles seront souvent accompagnées par des rafales de vent entre 70-80 km par heure. Ailleurs, le ciel reste sec, permettant aux températures de s'échapper. Elles ne dépasseront pas au réveil les 1 à 5 degrés dans le nord-est, 9 à 10 dans le nord-ouest, ainsi qu'autour de la Méditerranée. Demain matin, cette perturbation s'enfonce vers le sud et va s'étendre des Pyrénées aux régions centrales jusqu'au Hauts-de-France, tandis que les éclaircies reviennent en Bretagne et qu'un temps sec, bien que nuageux, s'installe dans le sud et l'est, maintenant l'atmosphère dans la fraîcheur. Dans l'après-midi, l'ambiance est encore humide, du